Le jour où les gens sont vraiment confrontés aux problèmes, à la souffrance, etc., et qu'on a eu l'occasion avant de semer la semence de l'Évangile, ils savent à quelle porte il faut frapper le jour où il pleut chez eux. Semez votre semence d'Évangile, semez à tout vent, semez partout où vous pouvez. Et c'est sûr que vous allez vous retrouver dans la situation que Jésus présente dans la parabole. Il y a le terrain comme le chemin, dur, la semence ne rentre pas, les oiseaux prennent, plus rien. Il y a le terrain pierreux, ça n'a pas de racines, le jour où ça ne va pas, ça retombe. Il y a le chemin plein d'épines, les difficultés de la vie, ça les étouffe, ça ne marche pas. Mais il y a aussi de la bonne terre. Il y a aussi de la bonne terre. Et en semant partout, il y en a qui vont tomber dans la bonne terre. Et quand ça va tomber dans la bonne terre, ça ne va pas lever demain. Ça va lever après-demain. Vous savez, le meilleur moyen d'avancer soi, c'est de donner la main à quelqu'un et de lui faire faire un bout de chemin. Je découvre quelque chose dans la parole de Dieu qui vient de Dieu. Tiens, je te le donne. Mais ce que j'ai, je te le donne.
C'est un principe pédagogique à l'école. Quand un étudiant est capable de répéter à l'autre et de l'aider, il l'intègre encore plus. Aide l'autre puis ça t'aide toi.
Partagez ce que vous recevez. Et qui vous fait du bien, transmettez-le, donnez-le. Et ça vous permettra de l'intégrer, ça vous permettra aussi de le verbaliser vous-même. Et ça fait partie de notre aide à nous-mêmes. Vous vous souvenez quand cet homme qui était démoniaque a été guéri par Jésus, et il a demandé à Jésus, est-ce que je peux rester avec toi? Qu'est-ce que Jésus lui a dit?
Non, mais va dire où
on va. Retourne chez toi et va dire ce que Dieu a fait pour toi. C'est le même principe. Tout simplement. Alors, les dernières fois, on a vu quelle était la condition humaine. On a vu le problème de la souffrance. On a vu le problème, l'origine du mal. On a vu le péché. Le péché, les péchés. On est en train de voir quelle est la condition humaine, les différents aspects de la condition humaine. Et aujourd'hui, j'aimerais regarder un sujet avec vous qui me paraît très important, qui est la conséquence du péché, la mort. Qui est un sujet très controversé, mais qui est un sujet qu'il faut absolument regarder dans la Bible pour le comprendre. C'est un sujet un petit peu plus difficile parce que depuis des siècles, la tradition chrétienne a véhiculé une autre idée, qu'elle a empruntée aux philosophies non chrétiennes. Mon souci, c'est d'aller chercher dans les Écritures ce qui est dit sur ce sujet-là. Mais il y a encore plein d'autres textes qu'on ne va pas lire. Donc, faites comme on a dit au début, lisez et vérifiez si ce qu'on vous dit est exact. Si on veut comprendre la question de la mort, la question est finalement simple dans un sens. Elle gravite autour de trois mots. Et on va essayer ensemble de comprendre ces trois mots. Ces trois mots sont corps, esprit et âme. Nous avons dans nos cultures donné un sens particulier à ces différents mots, mais quel est le sens que la Bible donne à chacun d'entre eux? Et c'est ce qu'on va regarder ensemble. On va commencer avec un texte dans le livre de la Genèse au chapitre 2 qui est lié à la création et qui en fait résout le problème dès le départ. Si on comprend ce texte-là, en fait on n'a pas vraiment besoin d'aller plus loin. C'est le texte de Genèse chapitre 2, le verset 7. Genèse 2, verset 7.
L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant.
Merci. Est-ce que vous avez autre chose dans vos versions?
Il parle aussi d'âme vivante. Là.
Voilà. Comment c'est dit chez toi?
Ben moi, j'ai la même chose qu'elle, sauf qu'ils mettent un petit 1, puis il est marqué en hébreu, c'est marqué une âme vivante.
Exact. Le texte dit littéralement, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. C'est le mot âme qui est employé. Regardez ce que le texte dit. C'est une addition très simple. Dieu a formé l'homme à partir de quoi?
La poussière de la terre.
À partir de la poussière de la terre. Qu'est-ce que Dieu a formé avec la poussière?
Le corps.
Il a formé le corps. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait?
Il a soufflé dans
ses narines quoi? Il a soufflé dans ses narines le souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. c'est-à-dire corps, fait de la poussière, plus souffle de vie, égale âme vivante. On va regarder un certain nombre de textes qui sont en rapport avec le mot corps, le mot esprit et le mot âme, pour en donner les définitions bibliques. Par rapport au corps, c'est vite vu. On va juste lire un ou deux textes à ce sujet-là. Restons dans Genèse, au chapitre 3, le fameux texte du verset 19.
Oui, tu en tireras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes au sol dont tu as été tiré, car tu es poussière, tu retourneras à la poussière.
Voilà, merci. On a vu dans le texte tout à l'heure que Dieu a créé le corps avec la poussière de la terre. Et quand on meurt, le corps, où est-ce qu'il va ? Il redevient poussière. Ça, c'est pas difficile parce que c'est quelque chose qu'on peut constater. Prenez une pomme, mettez-la dans la terre. Si vous allez la rechercher un an après, vous ne trouverez plus rien. Le corps, c'est pas difficile à comprendre parce qu'on le voit. Et on sait ce qui lui arrive. Juste un ou deux textes, si vous voulez. Psaume 139, est-ce que quelqu'un pourrait nous lire les versets 14, 15 et 16, s'il vous plaît?
Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé des profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât.
Merci. Le psalmiste ici s'exclame devant la beauté de la création. Et il dit, voilà, mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Le corps. Un autre passage, si vous voulez bien, on va regarder 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Cette fois, un texte dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens 6, verset 19 et 20.
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu ? Et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu.
Merci. Voilà, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Dieu veut agir, Dieu veut être présent dans notre vie, dans notre corps. Le corps, on le connaît. Je n'ai pas besoin de lire plus de textes sur le corps, parce que ça, c'est une notion simple, on n'a pas besoin d'aller plus loin là-dedans. Je voudrais prendre maintenant la notion d'esprit. Prendre des textes qui parlent de l'esprit. Le texte qu'on a lu tout à l'heure dans Genèse parlait du souffle de vie. C'est un mot intéressant. En hébreu, c'est le mot ruach, qui est une onomatopée. C'est un mot qui est fait à partir d'un son. Et dans le cas particulier, le ruach, c'est ce qu'on fait pour voir son souffle. Et en hiver, on le voit. Le mot a été fait à partir de ça, et c'est le sens de souffle de vie que l'on a dans Genèse 2:7. Maintenant, on va regarder plusieurs textes en rapport avec ce souffle. Psaume 146. Psaume 146, versets 3 et 4.
Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leur dessein périsse.
Dans ce texte-là, il nous est dit, voilà, quand le souffle s'en va, qu'est-ce qui se passe? Il meurt, tout simplement. Alors, on a dans l'hébreu le mot « ruach », souffle de vie, et en grec, dans le Nouveau Testament, l'équivalent, ça va être « pneuma ». C'est un mot qu'on connaît. En français, on a plusieurs mots qui sont faits avec « pneumatique ». Sur votre voiture, vous avez quatre pneus. Pourquoi? Parce qu'ils sont remplis d'air. Pour exprimer la notion d'esprit, on va prendre ce qui nous paraît le plus ressemblant, c'est l'air, que l'on ne voit pas, mais qu'on peut sentir. Jésus va d'ailleurs prendre la même image en rapport avec le Saint-Esprit, quand il parle à Nicodème. Il veut dire, le vent, il souffle dehors, tu ne sais qu'il y a du vent que parce que tu vois les arbres qui bougent. De même, le Saint-Esprit, on sait qu'il agit, on ne le voit pas, mais on en voit les fruits. Donc on va avoir dans le Nouveau Testament le mot « pneuma », qui est l'équivalent du mot « ruach » dans l'Ancien Testament, avec le sens de « souffle de vie » ou « esprit ». Un autre texte, alors, dans la Genèse, Genèse 7. On va rester dans l'Ancien Testament, on ira dans le Nouveau juste après. Genèse 7, verset 15. On est là dans le texte du déluge. Et il est dit au verset 15.
Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, deux à toute chair ayant souffle de vie.
Voilà, les animaux sont rentrés dans l'arche. Et il est dit, toute chair ayant souffle de vie. Corps et souffle de vie. Alors, on va regarder dans le Nouveau Testament quelques textes avec le mot équivalent.
Ils disent, les animaux, toute chair ayant un souffle de vie, qui est l'esprit. Ben, comment ça qu'ils nous donnent ça aux animaux?
C'est une bonne question. J'aurais dû mentionner ça tout à l'heure quand on a regardé le texte de Genèse 2:7, en fait. Dans le texte de Genèse 2:7, il nous a été dit que Dieu crée le corps avec la poussière de la terre, qu'il souffle dans ses narines un souffle de vie, et que les deux ensemble constituent une âme vivante. Maintenant, on va voir tout à l'heure un texte, quand on parlera du mot « âme », dans le livre de la Genèse, et le mot « âme » est employé par rapport aux animaux, parce qu'eux aussi ont un corps, et eux aussi ont un souffle de vie. Ils sont aussi par conséquent des âmes. En fonction de ce qu'on a là, on comprend qu'il y a deux morceaux constitutifs dans l'être humain. Le corps et le souffle de vie. Seulement, Dieu n'a pas nécessairement donné le même souffle à tous les êtres. Parce que, finalement, s'il n'y a que deux morceaux, le souffle contient beaucoup de choses. Le souffle de vie en nous va contenir tout ce qui n'est pas matériel. C'est-à-dire, ça va être non seulement la pensée, mais aussi le tempérament, le caractère, l'imagination. Toujours dans le chapitre Esprit, on va regarder un texte dans le Nouveau Testament. Luc 8, 52 à 55.
Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donna à manger.
Merci. Il est la question de la fille Jaïrus, qui est morte, et tout le monde est bien conscient de ça, qui sont là. Jésus dit, elle dort, et lorsque Jésus l'appelle à la vie, le texte dit, et son esprit revint en elle. Le souffle de vie est revenu en elle. On a ici le texte qui nous dit, très simplement, si le souffle se sépare du corps, c'est la mort. Alors, on va regarder un dernier texte dans le Nouveau Testament par rapport à ça, dans Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2, verset 26. J'ai demandé à Marianne de le lire et ensuite, après, à Lise de le lire. Jacques chapitre 2, verset 26.
Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte.
En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte.
Merci. Alors, les anciennes traductions, comme Marianne a lu, ont comme le corps sans âme est mort. Mais dans le texte, le mot âme ne s'y trouve pas. C'est le mot esprit qui est employé, c'est le mot pneuma. C'est une de ces erreurs de traduction qui semble anodine à prime abord, mais qui est très lourde de conséquences parce que ça n'a pas du tout le même sens. Le texte dit véritablement, comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Le corps sans le souffle, esprit, est mort. La conception de celui qui traduisait, c'est que quand on meurt, il y a l'âme qui se promène et qui va quelque part. Mais moi, je ne vois pas ça dans mon texte. Un autre passage dans l'évangile de Jean. Évangile de Jean, chapitre 19, verset 30. On a là un texte qui est en rapport avec la mort de Jésus, et il y a là une expression qui est employée et qui ne correspond pas à la vision traditionnelle de la chose.
Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli », puis il baissa la tête et rendit l'esprit.
Merci. Il n'a pas rendu l'âme. Pourtant, c'est une expression qu'on emploie dans le langage courant. Quand on dit « ma voiture a rendu l'âme », ça veut dire que c'est fini. Mais le texte ici concernant la mort de Jésus dit « il rendit l'esprit ». C'est-à-dire que le souffle de vie, le rouar, le pneuma, a quitté son corps. Maintenant, les textes que je vous ai montrés là sont des textes qui nous font comprendre que le pneuma, le ruach, l'esprit, le souffle de vie, est un des deux éléments qui constituent l'être humain, qui constituent l'être vivant. La difficulté qu'on a avec ces trois mots, c'est que ces mots sont souvent utilisés dans des sens différents. Le sens qu'on a vu dans les textes présents, c'est le sens premier, c'est-à-dire le sens le plus généralement utilisé pour le mot « esprit ». Le sens premier du mot « esprit », c'est un des deux éléments constitutifs de l'être vivant. Maintenant, le mot « esprit » est aussi employé dans un deuxième sens, et on va regarder quelques textes en rapport avec ça. Par exemple, Romains chapitre 1, verset 9. On peut lire dès le verset 8 pour avoir la phrase en entier si vous voulez bien.
Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu, que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous.
Merci. Vous voyez ici, l'apôtre Paul dit « Dieu, que je sers en mon esprit ». Il parle là de sa relation avec Dieu. Le mot « esprit » qui est employé ici ne veut pas dire un élément constitutif de l'être humain. Il est en train de parler de son esprit dans lequel, par lequel il communique avec Dieu, de ses pensées, de la relation qu'il entretient avec Dieu, on va dire en français, dans son cœur. Il n'est pas ici question de construire l'être humain, le corps et l'esprit. Il est question ici du fonctionnement mental de l'être humain qui lui permet d'entretenir une relation avec Dieu. Et c'est le mot « esprit » qui est employé. Il est en train de dire « par ma pensée, par ma réflexion, je suis en communion avec Dieu ». Vous voulez juste relire le verset 9, je vous prie ?«
Dieu, que je sers de tout mon cœur en annonçant l'évangile de son Fils. »
Merci. Dans votre version, il est lit « de tout mon cœur » parce que c'est la manière dont on va s'exprimer aujourd'hui pour dire la même chose. Autrement dit, le sens premier de esprit, c'est élément constitutif de l'être humain, et le sens second, c'est vie intérieure affective, sentiment profond que j'ai au-dedans de moi. Ce sont en réalité deux sens différents pour le même mot. Le mot esprit est utilisé dans la Bible, d'abord pour dire élément constitutif de l'être humain, et il est employé aussi pour mentionner les sentiments profonds que j'ai, la vie intérieure, affective, ce que j'ai de plus profond au fond de moi. Regardez un autre texte dans l'Ancien Testament, psaume 143, verset 4. On a vu là un texte dans le Nouveau, maintenant on va regarder la même chose dans l'Ancien Testament. Psaume 143, verset 4.
Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein.
Merci. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Comment est-ce que vous dites ça en français courant?
J'ai le moral à peine.
Exactement. Je déprime. Quand le texte dit « mon esprit est abattu », il est en train de parler de son état d'âme, comme on va dire en français, des sentiments qu'il a dans son cœur, et il est véritablement déprimé. Dans ce texte-là, il n'est pas question non plus des éléments constitutifs de l'être humain. Il est question de la vie affective intérieure. Donc nous avons dans la Bible deux utilisations principales pour le mot « esprit ». Numéro 1, élément constitutif de l'être vivant. Numéro 2, la vie intérieure, la vie affective profonde. J'aimerais prendre maintenant le mot « âme ». Le corps, c'est pas compliqué, on l'a vu. Le mot « esprit », on a vu qu'il y a deux sens principaux dans la Bible pour le mot « esprit ». On va maintenant regarder le mot « âme », à quoi il est associé dans la Bible. Alors, on va retourner dans Genèse, et on va regarder dans les premiers jours de la création, ce qui est indiqué ici, c'est le texte auquel je faisais allusion tout à l'heure. Genèse chapitre 1, verset 20.
Que l'eau pullule d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre.
Merci. Le texte ne dit pas ça. Le texte dit en réalité que les eaux produisent en abondance des âmes vivantes. Le mot qui est employé ici, c'est exactement le même qui est employé au chapitre 2 par rapport à l'être humain. Le mot animal est employé ici, animal vivant, parce que c'est le sens de la création dans ce jour-là. Maintenant, si vous regardez au verset 24, vous avez la même chose.
Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce.
Merci. Le texte dit que la terre produise des âmes vivantes. C'est le mot « âme » qui est employé ici, encore une fois, de la même manière par rapport aux animaux que par rapport à l'être humain au chapitre 2. Un autre passage maintenant, dans Exode, chapitre 4, verset 19. Exode, chapitre 4, verset 19.
L'Éternel dit à Moïse en Midian, « Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. »
Le mot « âme » est employé dans l'original dans ce verset. Comment a-t-il été traduit en français?
Tous ceux qui en voulaient à ta vie.
Oui. Ta vie. C'est le traducteur qui a employé le mot « vie » parce que c'était le sens le plus évident dans le contexte où le mot est employé ici. En fait, le texte est en train de dire « Tu peux retourner là-bas parce que ceux qui voulaient te tuer ne sont plus là. » Et vous voyez que dans ce texte-là, le mot « âme » est équivalent du mot « vie ». On va en regarder encore quelques-uns. Psaume 22, verset 21.
« Protège mon âme contre la glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. »
Merci. Ce texte est intéressant parce que c'est un texte poétique hébraïque qui réutilise ce système du parallélisme. Dans la poésie hébraïque, le fin du fin, c'est de pouvoir dire la même chose avec un vocabulaire totalement différent. Ce qui pour nous n'a pas beaucoup de sens, c'est une répétition, mais c'est ce que vous avez ici. « Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. » En fait, il est en train de dire « Protège-moi, protège ma vie, épargne-moi. » Encore une fois ici, le mot « âme » est employé pour le sens de « vie », d'une façon globale. Dans le Nouveau Testament, on va regarder quelques textes aussi. Matthieu chapitre 6, verset 25.
Je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement?
Merci. Le mot âme est employé deux fois dans ce verset. Et il est traduit par quel mot?
Vie.
Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Et puis plus loin, la vie n'est-elle pas plus que le vêtement, que la nourriture? En fait, le texte dit, ne vous inquiétez pas pour votre âme. Et il est clair qu'il ne s'agit pas là de quelque chose de l'être humain qui s'évapore, qui monte au ciel, à la mort. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Et c'est effectivement le sens du mot âme dans ce contexte-là. Dans les Écritures, le mot âme peut être généralement traduit par vie, dans le sens global. Encore un ou deux textes. Matthieu 10, verset 39.
Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera.
Merci. Deux fois encore, dans ce texte, le mot « âme » est employé. Le texte dit « Celui qui conservera son âme la perdra, et celui qui perdra son âme à cause de moi la retrouvera. » Ici, le mot « âme » est employé, traduit encore une fois par le mot « vie », mais il n'est pas question d'un élément constitutif de l'être humain. Regardez d'autres textes encore dans Deutéronome chapitre 10, le verset 22. Deutéronome chapitre 10, verset 22, on a là un texte tout à fait historique dans lequel le mot « âme » est employé et la traduction est intéressante.
Mes ancêtres vinrent en Égypte au nombre de 70 et maintenant l'Éternel, ton Dieu, t'a rendu aussi nombreux que les étoiles du ciel.
Tes ancêtres sont descendus en Égypte au nombre de 70. Quel est le mot qui est sous-entendu?
Personne.
Ben, moi, c'est marqué, tes pères descendirent en Égypte au nombre de 70 personnes.
Dans le texte, il est écrit, tes pères descendirent en Égypte au nombre de 70 âmes. Alors, le traducteur ici a tout à fait bien traduit par personne, parce que c'est effectivement le sens. Regardez un autre texte dans Genèse 14, verset 21. On a là la conclusion d'une guerre qui a eu lieu avec Abraham et un autre peuple. Et il est dit au verset 21.
Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses.
Le texte dit littéralement, donne-moi les âmes et prends pour toi les richesses. Encore une fois, dans ce contexte-là, il est clair qu'il est question des personnes. On va regarder quelques textes dans le Nouveau Testament maintenant. Acte 27, verset 37. Il est question ici d'un naufrage que l'apôtre Paul a vécu. Le texte dit, nous étions dans le navire 276 âmes en tout. Et encore une fois, il est évident qu'ici, le sens de ce passage, c'est le nombre des personnes qui étaient sur le bateau. Un dernier texte dans le Nouveau Testament. Romains 13, verset 1.
Que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été mises en place par Dieu.
Merci. Que tout homme. Le texte dit que toute âme. Que chacun. Il s'agit là d'une personne. Nous avons en français la possibilité de traduire cela de différentes manières pour transmettre la même idée. Les textes que l'on vient de lire par rapport à âme nous montrent que le mot âme dans la Bible, le premier sens du mot âme, c'est la vie humaine, c'est une personne humaine. Maintenant, ce qu'on a dit pour le mot esprit est valable aussi pour le mot âme, c'est-à-dire qu'il y a un sens premier qui est utilisé généralement, mais aussi un deuxième sens qui est différent, mais qu'on trouve aussi dans les Écritures et pour lesquels on va regarder quelques exemples. Le deuxième sens du mot âme, on va en trouver des exemples dans 1 Samuel 18, verset 1. 1 Samuel 18, verset 1.
David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme.
Il n'est pas ici question de l'être humain constitué du corps et de l'esprit. Il est en train de parler ici de l'affection profonde qu'ils ont l'un pour l'autre. Relisez le texte dans votre version.
Quand David eut terminé de parler à Saül, Jonathan s'est profondément attaché à David et s'était mis à l'aimer comme lui-même.
Voilà, le mot âme n'est pas employé dans cette version-là, mais c'est exactement le sens du texte. Un autre passage, si vous voulez bien, dans Deutéronome chapitre 6, verset 5. Un texte qu'on connaît bien. Deutéronome 6, verset 5.
Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force.
Un texte qui est cité par Jésus dans le Nouveau Testament. Il ne l'a pas inventé, il l'a cité de Deutéronome. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Là, il n'est pas encore question, avec le mot âme, de l'être constitué par le corps et l'esprit. Tu l'aimeras de tout ton cœur, comme il le dit, de tout ce que tu as de plus fort en toi. On peut en regarder un ou deux autres. Philippiens chapitre 2, verset 2.
Rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée.
OK. Maintenant, lisez-nous le même, s'il vous plaît.
Rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée.
Merci. Dans sa version, le mot « âme » a été traduit par « cœur ». Parce qu'encore une fois, dans ce texte-là, il n'est pas question de l'être constitué du corps et de l'esprit, il est question de ce que nous vivons profondément dans nous-mêmes. Un dernier texte, Matthieu 26, 38. Alors on est là avec Jésus à Gethsémané, et au verset 38, il dit ceci.
Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. »
Merci. Même chose. « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » En français courant, ce que je vis intérieurement est tellement fort que c'est en train de me tuer. Et c'est effectivement ce que Jésus a vécu à Gethsémané. Maintenant, je reviens à mon petit diagramme ici. Esprit, il y avait deux sens. Le premier sens est un élément constitutif de l'être humain. Le deuxième sens, ce sont les sentiments profonds, le cœur, ce qu'on vit intérieurement. Le mot âme a un premier sens. Le premier sens, c'est vie, c'est la personne. Mais le deuxième sens, il est égal au deuxième sens de esprit. Le premier sens est différent, mais le deuxième sens de esprit et le deuxième sens de âme sont équivalents. Et c'est là que vient la difficulté, parce que le mot âme et le mot esprit, qui sont deux mots différents, sont aussi utilisés pour mentionner la même chose, c'est-à-dire la vie intérieure profonde, affective, que nous vivons, les sentiments. Mais ces deux mots sont aussi utilisés dans un sens différent par rapport à la construction de l'être humain par le Créateur. Et c'est de là que vient souvent la confusion. Autrement dit, le sens premier est extrêmement différent et il ne faut pas les mélanger, mais le sens second est équivalent et il est employé de façon interchangeable dans les Écritures. Regardez maintenant quelques textes en rapport avec âme de nouveau qui nous montrent que l'âme n'est pas immortelle. Alors, je ne vais pas en prendre beaucoup, j'aimerais juste en prendre un ou deux. Ézéchiel, chapitre 18, verset 4.
Voici, toutes les vies m'appartiennent, celles des fils comme celles des pères sont à moi. Eh bien, c'est la personne qui pêche qui devra mourir.
Cette version-là nous donne exactement le sens du texte. Ce que Marianne va nous lire maintenant, c'est le texte beaucoup plus littéral.
Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du fils comme l'âme du père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra.
Merci. Vous remarquez, c'est exactement le sens de ce qu'on a lu pour commencer. Mais le mot âme est employé constamment ici. Et il est dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, c'est-à-dire la personne. Alors, l'âme n'est jamais présentée comme immortelle. Vous pouvez lire votre Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Vous ne trouverez jamais le mot âme dans la Bible associé à la notion d'immortalité. Jamais. Par contre, la notion d'immortalité, elle est claire. Regardez dans 1 Timothée 6. On va lire 1 Timothée 6, versets 15 et 16.
Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen.
Merci. À qui appartient l'immortalité? À Dieu seul. Donc la notion d'immortalité n'est associable qu'à Dieu. Dieu seul est immortel par nature. Alors maintenant, on arrive à une image qui clarifie la situation. Dans Genèse, au chapitre 2, on avait vu que lorsque Dieu crée l'être humain, il va créer le corps avec la poussière de la terre, qui va insuffler dans ses narines le souffle de vie, et que maintenant, il va devenir une âme vivante. Pour résumer ce que nous avons dit, écoutez bien ceci. L'être humain n'a pas une âme. L'être humain est une âme. Cependant, l'être humain a un corps, il a le souffle de vie, il a l'esprit, mais il est une âme. Seulement maintenant, le jour où le souffle de vie quitte le corps, que devient l'âme? Il n'y en a plus. Alors, je vous donne un exemple. Je vais à Rona et je vais acheter des planches et des clous parce que j'ai besoin de faire une caisse. Je veux envoyer des oranges à Alain et je vais à Rona, je vais acheter des planches et je vais acheter un paquet de clous. Disons que les planches, c'est le corps et que les clous, c'est l'esprit. Je rentre à la maison avec mes planches et mes clous, je prends l'un et l'autre et je fais une caisse. Si les planches, c'est le corps et que les clous, c'est l'esprit, comment va-t-on appeler la caisse? L'âme. Maintenant, j'ai envoyé les oranges à Alain, il a mangé toutes les oranges, et cette caisse l'embarrasse. Un jour, il va chercher des pinces, il enlève les clous, il fait un tas de clous, et les planches se retrouvent en tas. Qu'est-ce qui est arrivé? Ce qui est arrivé, c'est la mort. Maintenant, où est partie la caisse? Est-ce que la caisse est montée au ciel?
Il n'y a plus de caisse.
Je suis simplement en train de vous dire que le jour où la mort intervient, l'âme n'existe plus, puisque l'âme, c'est ensemble un corps avec le souffle de vie. Si le souffle se sépare du corps, l'âme n'existe plus, parce que l'homme n'a pas une âme, il est une âme. Le jour où l'homme n'est plus, l'âme n'est plus. On reprend en réalité dans le christianisme traditionnel une philosophie païenne grecque que l'on a introduit dans le christianisme, que l'on a assaisonné avec un langage biblique, mais qui n'est pas le reflet de ce que la Bible enseigne.
Et eux, ça venait de...
Qu'est-ce que le diable a dit à Ève dans le jardin d'Éden ?
Vous ne mourrez point.
Le diable a dit à Ève, vous ne mourrez point. Et le diable s'ingénie à faire comprendre à l'être humain ce mensonge-là, à le lui faire avaler, à le lui faire croire. Et aujourd'hui, on fait des efforts énormes pour essayer de faire croire qu'on ne meurt pas. Alors, pour certains, ça sera l'immortalité de l'âme, pour d'autres, ça sera la réincarnation.
Mais pourquoi on va absolument pas mourir ?
On n'est pas fait pour mourir. Dieu nous a fait pour vivre éternellement. Et nous avons en nous cette aspiration à la vie éternelle. Alors aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est ce qui concerne le corps, l'esprit et l'âme, pour comprendre le sens biblique. La prochaine fois, on continuera et on regardera les implications en ce qui concerne la mort. On prie ensemble. Notre Dieu, notre Père, ce soir encore, nous voulons te remercier pour ta parole, pour sa richesse. Nous voulons te remercier pour la grandeur de ton amour et pour cette création merveilleuse que tu as placée autour de nous, pour ces créatures extraordinaires que tu as faites avec chacun d'entre nous. Nous te remercions, Seigneur, de ce que tu veux avoir avec chacun d'entre nous un lien direct, personnel, parce que nous sommes uniques au monde et nous sommes uniques pour toi. Nous te louons, nous te remercions et nous t'adorons, parce que Jésus est mort pour chacun d'entre nous. En son nom, nous te prions. Amen.